إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala, en ce jour du dimanche 15 janvier 2023, qui correspond au 22 du mois de Jumad al-Akhirah, de l'année 1444 de l'Hégire. Nous allons commencer, inshallah ta'ala, des cours sur les piliers de la foi, arkanul iman. Et pour cela, nous allons prendre comme support une risala du Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Ce livre se prénomme Nubdhatun fil aqidatil islamiyya. Donc c'est un résumé sur le dogme islamique. Avant de commencer le livre, il est important de parler de cet auteur qui est le Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc le Cheikh al-Uthaymin est né dans la ville de Unayzah en Arabie Saoudite. Il est né le 27 du mois de Ramadan de l'année 1347, qui correspond à peu près à l'année 1926 grégorienne. Il a commencé l'apprentissage de la science religieuse très tôt. Il a été rapporté qu'il a mémorisé le Coran, le Coran al-Karim, avant l'âge de 14 ans. Cheikh a beaucoup étudié la science. Parmi les enseignants qu'il a eus, qui sont les plus connus, il y a le Cheikh عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Chez qui il a appris, il a étudié التوحيد, donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, التفسير, l'explication du Coran, الحديث, الفقه, la jurisprudence, أصول الفقه, les fondements de la jurisprudence, الفرائض, la science de l'héritage, la grammaire aussi. Mais parmi les plus connus, il y a aussi le Cheikh, l'ancien grand mufti de l'Arabie Saoudite, al-Sheikh Abd al-Aziz ibn Baz, rahimahullah. Ainsi que le Cheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala. Donc ceux-ci sont les enseignants les plus connus parmi les enseignants chez qui il a étudié. Le Cheikh était connu pour sa science et surtout aussi dans le domaine du fiqh, mais aussi dans les autres domaines. Le Cheikh est décédé dans la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite, proche de la Mecque. Il est décédé pendant le mois de Shawwal de l'année 1421 Hijri, de l'Hégire. Ça fait à peu près dans l'année 2001. Donc il est décédé à Jeddah en l'an 1421. Voici une brève biographie du Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Donc, Cheikh, dans ce livre, Nubzatun fil Aqidati al-Islamiyya, a commencé par citer l'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam, les mérites de l'islam et les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam qui sont au nombre de 5. Le premier pilier, al-Shahadatayn, l'attestation de foi, le fait d'attester qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration et d'attester que Muhammad est son messager. Le deuxième pilier, la prière. Le troisième, al-Zakah, l'aumône légale. Le quatrième, Saum Ramadan, le fait de jeûner le mois de Ramadan. Et le cinquième, le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Ensuite, le Cheikh a commencé à parler des piliers de la foi, Arkanul Iman. Et c'est cela qu'on va lire ensemble, Inch'Allah. Donc, les piliers de la foi. Nous allons faire, Inch'Allah, un résumé de ce que le Cheikh a cité dans ce livre, Inch'Allah Ta'ala. Le Cheikh commence, il dit donc, الدين الإسلامي كما سبق عقيدة وشريعة وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه وذكرنا أركانه التي تعتبر أساسا لشرائعه أما العقيدة الإسلامية فأسسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc il dit la religion de l'islam, c'est un dogme, donc une croyance, et une législation, donc des lois. Et il dit qu'il a cité certaines parmi les lois, et il a cité les piliers de l'islam, comme nous avons fait tout de suite. Donc les 5 piliers de l'islam que nous avons cités. Il continue en disant, quant à la foi ou le dogme islamique, ses fondements sont la foi en Allah, la foi en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc il cite là les 6 piliers de la foi en global. Les 6 piliers de la foi qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذِهِ الْأُسُسِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ces fondements-là, donc ces piliers de la foi, ont été tirés du Coran et de la Sunna. Il cite comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il dit « لَيْسَ الْبِرْوَ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرْوَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ » C'est le verset 177 dans Sourate Al-Baqarah dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: selon la traduction des sens rapprochés, al-birr, la bonté pieuse, le bien, ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais elle consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc dans ce verset, il a cité les 5 piliers de la foi, et il en reste un qui est la foi au destin. Pour ce dernier pilier qui est la foi au destin, il a cité un autre verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr » Il cite donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Suratul Qamar, le verset 49 « Nous avons prédestiné la création de toutes choses. » Donc dans ces deux versets, il y a la preuve de ces 6 piliers qui sont les 6 piliers de la foi. Puis il cite encore comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dans lequel Jibril est venu sous la forme d'un homme et qu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi, l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi, rawahu Muslim. Donc il lui a répondu, la foi consiste au fait d'avoir la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc ici le Cheikh nous a cité les piliers de la foi en global. Maintenant il va commencer à citer chaque pilier, un par un, et faire l'explication de ces piliers. Le premier pilier est Al-Iman billahi ta'ala, la foi en Allah. Nous allons commencer petit à petit, dans chaque cours, nous allons citer des piliers. Aujourd'hui, nous allons faire le pilier sur la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, le premier pilier. Il dit donc Al-Iman billahi yatadammanu arba'ata umur. Al-awwal, Al-Iman bi wujudillahi ta'ala. وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. Il dit donc la foi en Allah comprend quatre points. Le premier point est la foi en l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avoir la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et son existence a été prouvée par quatre choses, il cite.
La première, al-fitra, la saine nature.
La deuxième, al-aql, la raison. La troisième, al-shar'u, les textes religieux. Et la quatrième, al-hiss, donc les sens. Maintenant, il explique ces quatre points. Il dit, amma dalalatul fitrati ala wujudihi.
Quant aux preuves de son existence par la saine nature,
fa inna kulla makhluqin qad futira ala al-iman bi khaliqihi min ghayri sabq tafkirin aw ta'lim. ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري.
La preuve de son existence par la saine nature, الفطرة.
Il dit, nous savons que toute créature ressent la foi en son créateur. Sans y avoir pensé ou avoir reçu un enseignement au préalable. Et seule une personne dont le cœur a été détourné de la voie correcte sera éloignée de cette fitra, de cette saine nature, c'est-à-dire la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque personne. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout nouveau-né naît avec la fitra, avec la nature saine. » Puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un majus, rapporté par Muslim. Donc ceci est la preuve de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala par al-fitra. En deuxième, il cite « Amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala » Quant aux preuves de son existence par al-aql, par la raison, le raisonnement « Fali anna hadihi al-makhluqat » سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا. Donc la preuve de son existence, l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala, par la raison. Certes, toutes les créatures présentes ou celles qui vont venir sont l'œuvre d'un créateur, car aucune créature ne peut se créer elle-même ni être le fruit du hasard. Toute créature ne peut se créer par elle-même, car avant d'exister, elle n'était que pur néant, elle n'existait pas. Et comment une chose qui n'existait pas pourrait-elle être le créateur? Elle ne peut non plus être le fruit du hasard, car tout événement nécessite un animateur. Et d'autant plus, toutes les choses qui existent, qui sont bien structurées, bien organisées, réfutent catégoriquement l'hypothèse du hasard. Car toutes ces choses qui ont été créées d'une façon, de la plus belle des façons, elles ne peuvent pas venir du hasard. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَنْ تُوجِدَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ نَفْسُهَا بِنَفْسِهَا وَلَا أَنْ تُوجَدَ صُدْفَهَ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لَهَا مُوجِدٌ وَهُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Étant donné que ces créatures, qu'elles ne peuvent se créer d'elles-mêmes et être encore moins le fruit du hasard, alors il ne reste plus qu'à confirmer, à affirmer l'existence d'un créateur qui n'est autre qu'Allah, le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala a cité cette preuve du aql, cette preuve de la raison, dans le Coran. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun » Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Dans Sourate At-Tur, verset 35. Yani, أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. C'est-à-dire, donc il explique ce verset à Cheikh Al-Uthaymin, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni être créés sans créateur et ni être les créateurs de eux-mêmes. Donc il dit par conséquent, il ne reste plus qu'une solution, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, c'est lui le créateur, c'est lui le seul créateur. Naam. Dans cette parole du Cheikh Al-Uthaymin, il y a une réfutation sur ce qu'on nous enseigne dans les écoles de la République lorsqu'on nous dit qu'on vient du singe et qu'il n'y a pas de créateur. Toutes ces choses-là qui ont été citées dans le Coran et dans la Sunna réfutent cette parole-là, qui est une parole très dangereuse. Ils veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de créateur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, wa l'ayyadu billah. Et ils veulent nous faire croire qu'on vient du singe. Mais si on venait du singe, pourquoi les singes qui sont présents maintenant ne se transforment pas en hommes ? Allahu al-musta'an. Cette parole que ces gens-là citent est une parole batila, une parole fausse. Et il faut éclaircir la vérité à notre entourage et aux gens qu'on connaît. Car ces gens-là veulent enlever la foi. Ils veulent enlever la foi en Allah subhanahu wa ta'ala des cœurs des musulmans en leur faisant croire qu'il n'y a pas de créateur. Et ça, c'est une chose très très dangereuse. Il faut faire très attention à cette croyance, cette fausse croyance. Et il faut enseigner cela à notre entourage et leur expliquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. Et nous avons comme preuve ces versets-là. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun? Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Non. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin cite un récit de Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu. Donc c'était un compagnon qui à l'époque était dans le polythéisme. Donc il dit, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter un verset de sourate At-Tur, donc ce verset que nous avons cité avec un autre, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal-ard bal la yuqinun am 'indahum khaza'in rabbika أم هم المسيطرون وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي رواه البخاري مفرقا. Donc ce compagnon Jubayr ibn Mut'im n'était pas encore musulman à cette époque et il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ces versets de sourate At-Tur dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction des sens rapprochés, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune certitude. Possèdent-ils eux-mêmes les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux les maîtres souverains? Donc c'est les versets 35 à 37 de Sourate At-Tur. Il dit, lorsque j'ai entendu ces versets, à cet instant, mon cœur a failli s'envoler. Et c'est la première fois que la foi, el-Iman, s'installa dans mon cœur. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Subhanallah. Donc ce compagnon, lorsqu'il a entendu ces versets, il dit, mon cœur a failli s'envoler. Et il a ressenti pour la première fois el-Iman, la foi. Puis Cheikh Al-Uthaymin cite un exemple de la raison pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, si un homme te parlait d'un château, d'un palais, bien construit, entouré de jardins, de ruisseaux, dont l'intérieur est couvert de tapis, de lits, avec des ornements luxueux, etc. Ensuite, cet homme t'annonce, donc l'homme qui te parle de ce palais-là, t'annonce que ce palais s'est créé de lui-même. Ou alors qu'il n'est que le fruit du hasard. Il dit que aussitôt tu rejetteras et traiteras ces paroles de mensonges. Afayajuzu ba'da dhalika an yakuna hadha al-kawn al-wasi' bi ardihi wa sama'ihi wa aflakihi wa ahwalihi ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد. Après tout cela, comment peut-on prétexter que ce monde, vaste par ses terres, ses cieux et ses planètes, et toutes ces choses qui sont ordonnées dans cette terre et dans ces choses qu'Allah a créées, comment peut-on prétexter que ces choses se sont créées d'elles-mêmes, ou alors qu'elles ne sont que le fruit du hasard ? Naam. Ceci est donc la deuxième preuve qu'a cité Cheikh Al-Uthaymin, qui est la preuve de la raison, la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala par la raison. La troisième preuve, il cite ثالثاً أما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك. Donc la troisième est les preuves de son existence par les textes religieux. Il dit que tous les livres révélés proclament l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Et les lois qui ont été rapportées dans ces livres, qui contiennent un intérêt pour les créatures, sont une preuve qu'elles émanent d'un Seigneur sage et savant de ce qui convient à ces créatures.
وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. De plus, toutes ces informations qui ont été rapportées sur l'univers, par exemple dans le Coran, on voit des choses qui ont été rapportées,
qui aujourd'hui ont été affirmées
par la science mondaine qui est présente de nos jours. Encore une fois, cela prouve qu'elles proviennent d'un Seigneur capable d'exécuter ce dont il nous a informé. Donc il dit les textes religieux qui sont venus prouvent aussi l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le fait qu'il a révélé des lois qui sont convenables et bonnes pour toutes ces créatures et qui conviennent à toutes ces créatures. Ça prouve qu'elles viennent d'un Seigneur sage et qui connaît un Seigneur sage qui connaît ses serviteurs et ses créatures. Et entre parenthèses, il faut savoir que tous les livres, en dehors du Coran, ont été abrogés par le Coran. Donc le dernier des livres est le Coran. Et tous les autres livres ont été abrogés par le Coran. Ensuite, il cite la quatrième preuve. وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْحِسِّ عَلَى وَجُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَمِنْ وَجْهَيْنِ. Quant aux preuves de son existence par les sens, elles sont de deux catégories. أحدهما أننا نسمع ونشهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Ces quatrièmes preuves sont les preuves de son existence par les sens, al-his. On a dit qu'elles se divisent en deux. La première, c'est le fait que nous entendons et que nous constatons que les invocations des serviteurs d'Allah et les appels de détresse des nécessiteux sont exaucés par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne invoque Allah, on voit que Allah exauce son invocation. Cela prouve irréfutablement l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui répond aux invocations de ceux qui l'invoquent. Il cite comme preuve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans laquelle il dit, selon la traduction des sens rapprochés, « Et Nuh, c'est-à-dire Noé, Nuh, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes. » Ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit, et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Donc ça, ce sont des preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé des invocations des gens qui l'ont invoqué et qu'il a secouru des gens qui l'ont appelé en détresse. Puis il cite aussi un hadith qui est rapporté par le compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui est rapporté dans le livre de Sahih al-Bukhari, أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال. الحديث. Donc ce hadith, dans lequel Anas radiallahu anhu rapporte qu'un bédouin est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il faisait le prêche du vendredi, khutbatul jumu'ah, sur le mimbar. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cet homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, les biens sont anéantis et les familles sont affamées. Invoque Allah pour nous afin qu'il pleuve. » Donc, à ce moment, il y avait de la sécheresse. Il n'y avait pas de pluie, il y avait de la sécheresse. Et donc, ce bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour eux. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَرَفَعَ يَدَيْهِ, il a levé ses mains et il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Et il dit donc, Anas, ce compagnon, il dit, soudain, apparurent des nuages, tels des montagnes. Puis, il ne fut pas encore descendu de son mimbar que je vis la pluie s'écouler sur sa barbe. Puis ce bédouin-là est revenu le vendredi suivant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait la khutba, le prêche du vendredi. Et il dit au messager d'Allah, les maisons sont détruites et les biens sont inondés. Invoque donc Allah pour nous. Subhanallah. Donc là, il vient pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour le contraire de ce qu'il a demandé la semaine dernière. La semaine dernière, il a demandé la pluie. Et bien maintenant, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour que la pluie s'arrête. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussitôt, il s'arrêta de pleuvoir. Donc ceci est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations. وَمَا زَالَتْ إِجَابَةُ الدَّاعِينَ أَمْرًا مَشْهُودًا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا لِمَنْ صَدَقَ اللُّجُوءَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَتَى بِشَرَائِطِ الْإِجَابَةِ. Jusqu'à nos jours, il dit, nous voyons et nous constatons qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'appel des gens, qu'il implore avec sincérité, il a dit, et en remplissant les conditions d'acceptation des invocations. C'est-à-dire, par exemple, le fait de manger du halal, de ne pas manger du haram, de ne pas habiller des choses haram, etc. Donc la personne, elle doit implorer Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement et elle doit remplir les conditions d'acceptation des invocations. Elle ne doit pas dire « mais j'ai invoqué Allah, mais il ne m'a pas exaucé ». Mais au contraire, elle doit revoir sa sincérité et elle doit revoir est-ce qu'elle a rempli les conditions d'acceptation des invocations ou pas. Est-ce que son argent est halal? Comment elle gagne son argent? Est-ce qu'elle se nourrit de choses halal? Est-ce qu'elle s'habille avec des habits halal, etc. Naam. Donc, ceci est la preuve de l'existence d'Allah tabaraka ta'ala par les sens. Donc on a cité qu'il se divise en deux. Le premier, le fait qu'on voit et qu'on constate qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations de ses serviteurs. La deuxième, il cite « Al-wajh al-thani » أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. Ce deuxième point, ce sont les signes des messagers, qui sont les miracles des messagers, auxquels les gens ont assisté ou alors ils ont entendu parler de ces miracles. Ces miracles prouvent, donc ils prouvent catégoriquement l'existence de celui qui a envoyé ces prophètes, qui n'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Car ces signes, qui sont des choses qui sortent du commun, ce ne sont pas des choses qu'on voit en général, ce sont des choses qui sortent du commun. Elles sont suscitées par Allah tabaraka wa ta'ala pour soutenir et secourir ses messagers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des signes, des miracles, pour les soutenir et les secourir. Et les gens ont vu ces signes et ces miracles. Il cite des exemples. مثال ذلك آية موسى حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينهما كالجبال. Parmi ces signes, il y a le signe ou le miracle de Moussa, de Moïse, Moussa alayhi salam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna de frapper la mer de son bâton, c'était au moment où Pharaon voulait tuer Moussa alayhi salam et les gens qui étaient avec lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de frapper la mer de son bâton. Et celle-ci se divisa en 12 voies séparées par des montagnes d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran, il nous parle de cela. Il dit subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Et elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Ceci était le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les signes qu'Allah a envoyé à Moussa alayhi salam, le fait qu'il a frappé de son bâton la mer et qu'elle s'est divisée en 12 voies séparées. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a noyé Pharaon dans la mer. Parmi les signes aussi qu'il cite à Cheikh Al-Uthaymin, ومثال ثاني آية عيسى حين كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله قال تعالى عنه وأحيي الموتى بإذن الله وقال تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني. Le deuxième exemple qu'il cite, c'est le miracle du prophète Isa alayhi salam. Jésus, Isa alayhi salam. Lorsqu'il donnait vie aux morts et qu'il les faisait sortir de leur tombe par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Isa alayhi salam, par la permission d'Allah, il donnait vie aux morts. C'était un miracle qu'Allah lui a accordé. Et pour cela, il cite la preuve dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos. Donc il cite ce que Isa a dit, et je guéris l'aveugle et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Dans Surat Al-Imran, verset 49. Dans un autre verset, dans Surat Al-Ma'idah, verset 110, il dit, et par ma permission, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Donc, parmi les signes qu'a reçu et les miracles qu'a reçu le prophète Isa alayhi salam, c'est le fait qu'il donnait vie aux morts par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et rien ne sortait de la permission d'Allah. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier exemple qu'il cite, wa mithalun thalith li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hina talabat minhu Quraysh ayah. فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس وفي ذلك يقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. Le dernier des exemples est le miracle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la tribu de Quraysh, donc ses ennemis qui étaient présents à son époque, les Quraysh lui ont demandé un signe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit signe en direction de la lune, et celle-ci se divisa en deux parties, donc en deux parties qui étaient visibles par eux. Ils ont pu voir directement la lune se fendre en deux. La preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Qamar, dans le verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala dit اقتربت الساعة وانشق القمر. Dans le verset 1 et 2, selon la traduction des sens rapprochés, l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voyaient un signe, un miracle, ils s'en détournent et disent c'est une magie éphémère. Surat Al-Qamar, verset 1 et 2. Donc, malgré qu'ils ont vu ce signe, ils n'ont pas voulu croire et ils ont dit que c'est une magie. Wal'iyadu billah. Nas'alullah as-salamata wal'afiyah. فبهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. Donc tous ces signes visibles avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu et a donné la victoire à ses messagers sont des preuves indiscutables de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ceci sont les quatre preuves qu'a cité Al-Sheikh Al-Uthaymin de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première, Al-Fitra, la nature saine. La deuxième, Al-Aql, la raison. La troisième, Al-Shara, les textes religieux. Et la quatrième, Al-Hiss, donc le sens qu'on a cité en deux catégories. La première, le fait qu'Allah exauce les invocations de ceux qui l'invoquent et ceux qui l'appellent au secours. Et la deuxième, qu'il a donné des miracles à ses messagers. Naam. Et ceci rentre dans ce qu'on a cité en premier, que la foi en Allah se divise en quatre. La première de ces quatre est la foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cours suivant, inshallah, nous allons voir le deuxième des points qui est compris dans la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Inshallah ta'ala. Donc nous allons nous arrêter ici, inshallah. Et bi'idhnillahi ta'ala, nous continuerons la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.